Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 13e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et j'espère que vous allez bien. En fait, on prend pas souvent le temps de se parler, mais oui, en fait, j'espère que vous allez bien à travers toute cette pandémie. Ça commence à se déconfiner, ça fait du bien aussi de voir l'extérieur un peu reprendre vie. Et le beau temps aussi, ça a été une semaine, oui, on a tourné ça peut-être il y a 2 semaines, vous êtes lundi présentement, mais c'était durant la grosse canicule qu'on a eue à la fin du mois de mai. Donc oui, il fait chaud, ça fait du bien, il fait beau dehors et puis on en profite. Alors oui, aujourd'hui, c'est le 13e épisode. Comme vous pouvez voir, c'est la première intro que je tourne de nuit, en fait, de soir. Comme vous voyez, c'est très sombre dans mon sous-sol présentement. L'épisode s'est tourné ce matin, en fait. On est vendredi. On l'a tourné durant le matin. Et puis, l'intro est toujours fait après l'épisode, pour ceux qui se le demandent. Naturellement, j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'on a discuté pour pouvoir vous en parler davantage. Parce que l'intro, c'est vraiment ça. C'est pour vous expliquer un peu en détail qui je reçois, de quoi qu'on a parlé, la carrière en général de la personne. Juste un petit résumé, un peu comme le derrière d'un livre qu'on peut lire afin de s'inspirer davantage et d'avoir une bonne idée du livre aussi. Alors, c'est le but de l'intro, comme vous pouvez voir. Oui, aujourd'hui, comme 13e invité du Made in Québec podcast, je reçois Hugo Dubé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Dubé, c'est, oui, le directeur général du SPGM dans District 31, mais également un acteur qu'on a vu depuis très longtemps, depuis 1990 déjà, qu'il tourne dans notre téléviseur. C'est un acteur avec une carrière incroyable, 8 nominations dans les prix Gémeaux, également qu'on a vu dans Providence, pour ceux qui se rappellent, pendant plusieurs saisons à Radio-Canada. Et pour moi, toute la génération des gens qui ont une 20aine d'années jusqu'à 30 ans, bien, vous l'avez bien connu dans Ramdam, naturellement. C'est le père de famille reconstitué, Claude. Claude L'Espérance, si j'ai une bonne mémoire. Et oui, dans le fond, c'est ça. Il a fait tout plein d'autres séries telles que Rupture, Lance et Compte, Les filles de Caleb, son premier rôle. Bref, on en parle davantage durant le podcast de toute sa carrière incroyable. Mais c'est également un conférencier. Depuis plusieurs années, déjà depuis 1998, qu'il est conférencier, Hugo Dubé. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, en fait, davantage. C'est en le voyant dans une conférence au gala Ose entreprendre en 2016. Il avait fait de l'animation durant cette soirée-là et il avait présenté une partie de sa conférence et ça a été vraiment un coup de cœur incroyable. Pour moi, ça a été une inspiration pour me lancer en fait dans ce milieu-là des conférences. Et puis, c'était important pour moi de pouvoir vous le présenter parce que j'ai réussi à découvrir vraiment un personnage, mais surtout une personne incroyable en Hugo Dubé. Et ça me faisait vraiment plaisir de vous le faire découvrir davantage que celui que vous connaissez déjà en tant qu'acteur. Et oui, également, c'est un auteur. Hugo Dubé a sorti déjà 2 livres à son actif. Le livre « La créativité à 4 lettres, vous ». C'est ça le titre du livre et c'est vraiment un livre que je vous suggère. Je l'ai lu. C'est vraiment un très, très bon livre qui peut vous inspirer aussi à réaliser vos projets. Et oui, vous le savez, c'est un des buts principaux du Made in Québec podcast qui est de vous inspirer à travers cette période plus ou moins facile qu'on vit actuellement, de recevoir des gens de divers parcours. Je reçois beaucoup de gens dans le domaine du sport. C'est important pour moi d'aller chercher un peu plus dans la culture parce que c'est vraiment une de mes passions, mais c'est belle richesse que l'on a d'avoir des acteurs de qualité, des séries de qualité. Et puis, il faut soutenir ce domaine-là. Actuellement, il va très, très difficile avec la crise. Ce n'est pas évident. Les plateaux de tournage ont été arrêtés. Et on en a parlé davantage dans le podcast pour ceux que ça l'intéresse de savoir comment que Hugo Dubé l'a vécu à l'interne avec le plateau District 31, l'arrêt des tournages carrément. On a parlé aussi de sa carrière, bien sûr, en fait. On a parlé aussi les gens qui l'ont inspiré dans tout son parcours, de toute sa carrière aussi. Il y a souvent des gens qu'on rencontre qui ont une bonne inspiration pour nous et un bon impact sur notre carrière. Et puis, on a eu quelques noms aussi très intéressants là-dessus et surprenants aussi. Bref, Hugo Dubé, c'est quelqu'un qui travaille aussi partout dans le monde. Il fait des conférences en Europe. Écoute, il a vraiment une carrière incroyable et ça me fait un énorme plaisir de pouvoir vous le présenter. Donc, je vous en dis pas trop. Je vais vous laisser le découvrir durant le podcast. Et oui, pour ceux qui se demandent c'était qui, j'avais un chat aussi durant le podcast à côté de moi. C'est la mascotte du podcast. Donc, je le garde à mes côtés et ça me permet pendant ce temps-là qu'il ne me dérange pas plus que ça. Donc, parenthèse faite. Alors, je remercie Hugo Dubé de sa présence au podcast et puis, je vous souhaite une excellente écoute pour ce 13e épisode du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Made in Québec podcast. Hey. Et oui, déjà le 13e épisode, ça va vite. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que j'ai un énorme respect pour et surtout que j'ai hâte de vous faire découvrir davantage. Vous le reconnaissez sûrement, on a l'honneur aujourd'hui de parler avec Hugo Dubé ou si vous préférez, Carl Saint-Denis, le directeur du SPGM. Écoute, c'est vraiment un honneur de pouvoir te recevoir aujourd'hui, Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Mais plaisir, merci de me recevoir.
Écoute, c'est la moindre des choses. On va faire un petit topo rapide pour parler de ce que tu as fait. En général, les rôles les plus marquants, si on pourrait dire, les gens te connaissent surtout comme acteur, mais c'est important de dire que tu n'es pas juste acteur. Tu es un peu comme moi, en fait, en quelque sorte, tu es multitâche. Et oui. Puis, tu es acteur, conférencier, animateur. Tu as ton propre podcast également, tout comme moi.
Aussi.
Et puis, tu es auteur de tes deux livres que tu as déjà sortis. Alors, on va en parler plus en détail. Au niveau de ta carrière, acteur, tu as débuté en fait en 1983, tu as été diplômé du séminaire de Sherbrooke en sciences humaines. Par la suite, en 1988, tu as été diplômé en théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, un DEC. Puis par la suite, ton premier grand rôle que tu as eu, c'est dans Les Filles de Caleb. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un peu plus loin, surtout les gens de ma génération. Mm-hmm. Mais c'est quand même un rôle assez marquant dans ta carrière. 1990, tes débuts. Et puis par la suite, dans Omerta en 96. Dans Ramdam, pour les gens de ma génération, un père et une voix très réconfortante. Et ça a été vraiment un rôle qu'on a appris à découvrir, tous ceux qui sont de 25 ans et plus, je pourrais dire. Dans Providence également, moi, c'est une série que j'ai bien appréciée en 2005. Ah, okay. J'ai adoré suivre cette série-là, d'ailleurs, avec Monique Mercure, qu'on pourrait dédier cet épisode à sa mémoire, si on veut.
Oui, tout à fait, grande dame.
Une grande dame, puis surtout une très, très belle série que c'est toujours possible de redécouvrir. Je ne sais pas si c'est sur ici.
Non, pas encore. On se le souhaite parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui le demandent, mais je te laisse continuer.
Oui, après oui, ça, on en reparlera en détail. Par la suite, un rôle également dans L'Anse et Compte en 2012. Sincèrement, je l'avais oublié, puis je m'en suis rappelé.
Avocat.
2015, dans Rupture, ça, je m'en rappelle très bien, ça fait pas très longtemps non plus. Et par la suite, dans les dernières années et demie, je pourrais dire, dans District 31, pour tous ceux qui suivent la série actuellement, c'est certain qu'ils savent que tu es le DG du SPGM, comme on disait. Au niveau également film, c'est important de le mentionner, il y a un film que j'ai bien apprécié aussi, vieux mais bon, Windigo en 1994, ça sort des boulamites.
C'est bon, ouais, c'est bien ça.
J'ai découvert ça, ceux qui veulent l'écouter, Club Illico, c'est toujours disponible. Et 2004, Monica la mitraille qui a été un excellent film, je pense un chef-d'œuvre des films qu'on a au Québec. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié, une histoire qui est très intéressante également. On fait vraiment un survol très rapide de ta carrière. 8 nominations également dans les prix Gémeaux. C'est vraiment exceptionnel, ça aussi, pour un acteur.
Un jour, je finirai par gagner.
Écoute, il y en a qui... On va reparler en détail de ça, le nombre d'acteurs qui n'ont pas remporté d'Oscar et qui le mériteraient aussi. Ça veut rien dire. Également dans les livres, c'est ça, tu as sorti La créativité à 4 lettres. Et puis, ça a été un excellent livre. Je l'ai lu puis ça m'a inspiré à mes tout débuts dans les conférences. Vraiment, si vous avez un projet que vous désirez partir, que manque un petit boost, là, c'est vraiment un bon boost.
Le woomph,
exactement. Les voies de la réussite également, c'est un livre que, sincèrement, je n'ai pas lu. Puis comme je disais juste avant le début de l'enregistrement, j'espère le lire prochainement dès que les bibliothèques et les renouvrées sont accessibles pour tout le monde. Sept personnalités qui ont réalisé leur plein potentiel et vivre une vie passionnante grâce à leurs expériences et tout. C'est vraiment un livre qui m'intéresse et qui m'interpelle parce que ça ressemble beaucoup au podcast également. C'est des personnalités qui racontent leur histoire et qui tentent en fait d'inspirer les gens par leur parcours. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous le suggère également. Également un podcast, comme on disait.
Allez, fais-le.
C'est un podcast qui est très intéressant également. Ceux qui veulent le découvrir, disponible sur YouTube, si j'ai une bonne mémoire.
Sur YouTube, mais c'est plus sur les Spotify, Balado Québec, Apple Balado, tout ça. Là, mon site web, hugodube.com, on peut faire aller vers le lien disons que je suis moins, un peu moins productif que toi. Tu as vraiment une énergie extraordinaire du podcast. Merci. C'est parfait.
Oui, mais on a le temps puis on est en confinement. Dès que la vie normale va reprendre, ça se peut que je la pédale.
je te souhaite de continuer à poursuivre ta mission. C'est extraordinaire.
Merci beaucoup, Hugo.
Un plaisir.
Donc, c'est pas mal ça au niveau podcast, livre, film et télé. Un petit résumé rapide. Et puis, également, c'est important de le dire que depuis 1998, tu donnes des conférences Canada et Europe. Donc, les gens qui ne sont pas au courant que tu es conférencier, il est temps que vous le sachiez. C'est vraiment... sincèrement, moi, je tiens à le préciser, c'est Hugo qui a été ma première inspiration. Puis, c'est pas parce que je le reçois au podcast. C'était, en fait, le message que je lui ai lancé en l'invitant au podcast. C'est vraiment mon inspiration au niveau conférencier. J'ai vu sa conférence en 2016 au gala Ose entreprendre à Laval. Et puis, il était animateur, mais également une partie de sa conférence, une vingtaine de minutes qu'il avait fait. Et puis, c'était la première conférence vraiment que je voyais, que je prenais le temps d'écouter. Mes yeux ont fait ça. J'étais vraiment captivé par la conférence. J'ai été également très surpris parce que moi, je te connaissais comme acteur. Je n'étais pas au courant que tu faisais des conférences. Et puis, j'ai dit « Wow, c'est vraiment un métier incroyable de pouvoir communiquer avec les gens. » Mais ce que j'ai remarqué le plus de toi puis qui m'a inspiré pour la suite des choses, c'est ta proximité avec le public. Puis ça, on l'oublie souvent parce qu'il y a beaucoup de conférenciers ou des gens dans le domaine du spectacle qui ne prennent pas nécessairement le temps de connecter avec leur public. Puis toi, tu te promenais dans la foule une heure, deux heures avant l'événement. C'est toi-même qui est venu m'aborder, me taper sur l'épaule. « Hey, salut, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton nom? D'où tu viens? » Mon Dieu, il s'intéresse vraiment à nous autres. C'est exceptionnel. Puis sincèrement, c'est ça que j'essaie de faire par mes conférences. Moi, c'est plus au niveau des jeunes, mais j'essaie de leur parler, de leur tendre la main, de voir un peu à qui j'ai affaire. Puis je trouve tellement que ça donne une proximité puis une connexion avec son public qu'on a la chance de développer avant la conférence. Puis ça enlève également un petit stress aussi. Donc, vraiment, merci pour cette inspiration-là. Puis tous ceux qui ont des événements, n'hésitez pas à booker Hugo dans vos événements à venir. On l'espère qu'ils vont revenir prochainement.
Oui, ça va revenir, c'est sûr. On ne sera pas toute notre vie comme ça où on vit dans une bulle. Il faut comprendre que le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas mourir de rien. Alors, il va falloir apprendre à vivre avec cette situation extraordinaire. Et puis, à un moment donné, l'humain, on se développe en contact avec d'autres humains. C'est organique, c'est cellulaire, c'est moléculaire. Tu ne peux pas être à distance de toujours des ans. Des gens, ça fait des millénaires qu'on est grégaire, qu'on est tribun. Alors, c'est sûr que je pense que tout le monde va chercher par tous les moyens à revenir ensemble.
Exact.
On se souhaite le plus rapidement que le plus tard possible. C'est un peu étrange, mais il faut s'adapter, il faut être souple, il faut être résilient parce qu'à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on est. On est des milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu des guerres, des pandémies, des famines, et c'est en nous, ça. On est l'espèce numéro un sur la planète pour le meilleur ou pour le pire, c'est un autre débat. Parce qu'on est résilient, parce qu'on est tribun, parce qu'on collabore, parce qu'on est capable de s'adapter depuis 200 000 ans. Alors, oui, c'est sûr qu'on va revenir, ensemble. Il y a un renouveau qui est en train de démarrer tout ça. Il faut avoir confiance, il faut être patient surtout. Et c'est difficile dans le genre de société qu'on est d'être patient. On est fasciné par le mouvement. Et quand on est obligé de se faire dire « calme-toi », ça nous... mais probablement que les gens, le deux mois de confinement, j'ose espérer qu'ils n'ont pas juste rénové, qu'ils n'ont pas juste été occupés à passer le temps, mais prendre le temps. Tantôt, je ne sais pas, je te laisse aller, là, je ne veux pas...
Moi, c'est, je laisse aller mon invité, l'inspiration, vas-y, go.
Je te dirais, c'est ça, il faut... Dans le monde de la création, de l'innovation, il faut prendre le temps de réfléchir. Et même un acteur, quand tu crées un personnage, il faut que tu aies le temps de le construire. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut être observer, il faut être curieux, il faut se poser des questions, il faut douter. Et cette période-là, je sais que c'est très difficile de créer en ce temps-ci parce que c'est une période hors norme. C'est pas, on ne le fait pas par choix. Et il y a des gens que leur secteur d'activité a carrément explosé. Ils n'ont plus de temps eux autres parce qu'ils sont tellement en demande.
Les masques.
Les masques, les piscines, tout ce qui est de la sécurité, tout ce qui est de l'Internet et tout ça. Bon, ben le télétravail. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont carrément mis à l'arrêt et probablement que ça sera profitable plus tard si on laisse le temps de digérer tout ça, si on accepte ça, si tu changes les choses que tu peux changer puis acceptes ce que tu ne peux pas changer. Des fois, c'est très difficile. Ma mère me disait toujours, quand tu ne peux pas nager, au moins sors la tête de l'eau. Essouffle-toi pas, essaye de te débattre quand les vagues sont trop élevées, c'est trop violente. C'est sors la tête de l'eau, puis après ça, on recommencera à nager.
Exact.
Voilà.
c'est très inspirant. Puis oui, tu l'as bien dit. C'est vraiment de prendre le temps aussi. C'est un peu comme j'ai dit avec d'autres invités, parce que toutes les invités que j'ai reçus à mon podcast sont inspirants à leur façon, mais surtout, ne se laisse pas décourager. J'ai beaucoup d'entrepreneurs également que j'ai reçus, mm-hmm. puis ils ont toutes la même vision. C'est le temps de se renouveler et non de se réinventer. C'est vraiment important de le dire, parce que c'est le temps de trouver des occasions de peut-être faire les choses différemment, mais peut-être meilleures aussi. Tu sais, on n'a jamais le temps de s'arrêter. On n'a jamais le temps de prendre juste le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on aimerait faire en tant que personne de nos vies, oui. sincèrement, qu'est-ce qu'on aimerait réaliser comme objectif, puis en tant qu'entrepreneur, peut-être, qu'est-ce qu'on aimerait, où est-ce qu'on aimerait emmener notre entreprise? On n'a pas le temps de prendre le temps, mais là, on l'a. On peut
Oui, il y a des entreprises où ça a démarré. Au lieu de prendre des mois à s'ajuster, ils l'ont fait en quelques semaines. Il y en a d'autres que c'est... Quand tout explose. Je prends mon agent d'acteur, tout d'un coup, tout arrêté. Il a dû... de quelle façon tu peux garder tes employés, de quelle façon tu enclenches le télétravail, de quelle façon tu rassures ton monde, de quelle façon... Et c'était très, très rapide. C'était un torrent de changement. Mais c'est après, une fois que tu es arrivé, tu arrives à éteindre les feux, de digérer tout ça, et en même temps, réfléchir. Quand tu as du temps parce que tu es entre deux projets, c'est bien. Mais quand tu as du temps parce que tout d'un coup, tout est arrêté, c'est pas le même stress. C'est pas la même énergie. C'est juste que quand tout ça redémarre, j'espère qu'on va entrer dans ce que j'appelle la sobriété heureuse. C'est de revoir notre implication dans ce monde-là. Le monde va continuer, le monde va se renouveler, le monde, tu sais, les gens, c'est pas vrai que tout, à mon sens, tout va être différent. La mondialisation va être encore là. Tu me parlais d'achat local la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, c'est extraordinaire, mais en même temps, l'achat local, il faut continuer de transiger avec l'international. On est un pays exportateur. Il faut réoxygéner le local. Il faut être capable, en très peu de temps, d'au moins avoir 50 % de notre matériel médical, de nos médicaments, de la nourriture. Il y a tout ça à repenser. C'est un super beau défi. C'est un beau défi pour les jeunes aussi. C'est un beau défi pour les gens qui étaient peut-être plus pépères dans leurs habitudes. Ça nous bouscule. Et oui, il faut être inspirant. Oui, il faut prendre le temps. Et oui, il faut peut-être... Il faut accepter des fois qu'on a ce malaise-là, qu'on se sent pas bien, qu'on est perdu, qu'on peut être choqué, on peut être en colère, on peut être déçu, on peut être frustré. Ça fait partie de ces émotions-là. Faut pas les refouler parce que ça va développer autre chose. Faut les exprimer. Faut pas les exprimer sur quelqu'un d'autre. Si tu es vraiment frustré, tu as un matelas chez vous, tu peux aller crier dedans dans un oreiller, tu peux te défouler à suer, tu peux aller courir, tu peux essayer de plonger dans ta piscine, peut-être 40 secondes sans respirer, sans n'importe quoi. Il y a plein de moyens sans le faire sur quelqu'un d'autre. Mais tous ces sentiments-là, c'est normal de les vivre. Et ça, je pense que ça arrive une fois par siècle, ce qu'on est en train de vivre. Toi, tu es encore jeune. Probablement que dans 60 ans, tu vas dire, hey, moi, je me rappelle, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va garder de ça? L'avenir nous le dira. Mais là, on est dedans. Faut apprendre à danser avec.
Exactement. Puis, tu sais, c'est important, comme tu dis, oui, ça peut tester nos caractères. Oui, ça peut vraiment être difficile à chaque jour.
C'est difficile.
C'est très difficile de vivre aussi.
Tu vis toi-même. Tu es à l'arrêt, toi aussi, ton secteur d'activité.
Complètement. Et ma conjointe aussi. Les deux, on est ensemble depuis 3 mois. Puis, tu sais, ça peut être très long. Ça peut être. Mais tu sais, quand tu es avec une personne que ça clique bien, les problèmes ne sont pas nécessairement là. Mais j'entends d'autres couples que. Je vois beaucoup de couples aussi qui se séparent depuis le début du confinement. C'est tellement difficile aussi d'habiter avec une personne que. Peut-être tu ne le savais pas, mais ça ne cliquait pas plus qu'il faut. Là. Mais là, ça ressort un peu plus les caractères de chacun, l'impatience. C'est aussi une belle façon d'apprendre à travailler sur les caractères de chacun aussi, puis de faire.
Et apprendre à se définir autre chose que ta job, parce que beaucoup d'entre nous, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, salut, je m'appelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va peut-être falloir revisiter cette question-là.
Tellement.
C'est plus parle-moi de toi, c'est pas obligé de se définir nécessairement par son statut. En Amérique du Nord, si tu dis ça à un Européen, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va te dire, ça ne t'en garde pas.
C'est pas
de longtemps de se connaître. Alors que nous, je me dis, cette période-là, c'est probablement une période pour se redécouvrir, pour peut-être être juste, pas juste sa job, être autre chose, être l'humain, être l'homme, la femme, être le parent, être le conjoint, être l'ami, être son meilleur ami. C'est, mais là, je ne sais pas si tu vas aller vers le monde de la télé ou.
Ben non, mais pas vrai. Moi, je te laisse aller. C'est ça, j'aime. Des fois, j'ai 10 questions ou 15 questions, ça dépend, puis j'en dis 3 d'un fois. Fait que c'est pas un grave. C'est l'improviste, puis c'est, je peux dire, l'improvisation que j'aime beaucoup d'un podcast, d'y aller avec une conversation fluide.
Tout à fait, t'as raison.
Écoute, ben oui, si tu veux qu'on parle de la télé, je vais prendre la balle au bon. Fait que...
Vas-y. Écoute, vas-y.
Oui. Dans le fond, au niveau de. C'est les gens te connaissent surtout dans le district 31 en ce moment. J'ai une question qui m'est venue en tête un peu, mais comment tu as eu ce rôle-là? Est-ce que c'est par une audition? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pensé à toi, qui t'a appelé? On pense à Luc Dionne ou c'est. J'ai aucune idée comment. Comment c'est arrivé?
Je dirais Luc Dionne, j'ai fait Blue Moon 3 qui est en onde actuellement à TVA. Là. Je pense qu'il reste 2 épisodes pour connaître la série. Si tu n'as pas vu Blue Moon 3, je t'invite. Si tu aimes District 31, tu vas adorer Blue Moon 3. Le sujet est fascinant. On tente de voler de l'eau. Pas d'eau, pas de vie. Et le Canada, on a probablement le tiers de l'eau potable au monde. Lorsqu'on sait que dans 50 ans, la majorité des conflits armés seront reliés à l'eau. Parce que c'est très important, l'eau. Et on le voit partout, l'Israël et tout avec l'Égypte et tout ça. C'est pas d'eau, tu peux pas cultiver. Et c'est Luc Dionne, j'avais fait Omerta, justement. Tantôt, tu parlais d'Omerta. Et puis, quand j'ai fait Blue Moon 3, lors du rap party, parce que quand on a terminé un tournage, on se fait toujours une petite fête entre nous. Et puis, en se prenant une bière, Luc est venu me voir et il dit « Hey, est-ce que ça te tenterait de jouer dans District 31? » Je fais « Non, un peu. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Certainement que ça me tente. » Puis il dit « Prends pas n'importe quoi. Laisse-moi le temps de te revenir. » Puis à un moment donné, il m'a appelé et il m'a dit « Est-ce que ça te tente de jouer? » Il y a un nouveau chef de police, un directeur de la police. J'ai fait tout à fait. Je veux plonger. Je m'entends bien avec... J'aime cet auteur-là. J'aime la façon dont il écrit et en même temps qu'il nous permet de dynamiser ses textes. C'est quelqu'un qui comprend. Je pense qu'il est tombé dedans. On le voit par les projets que Luc réalise. C'est vraiment plaisant. Donc, c'est comme ça que j'ai eu Carl Saint-Denis dans District 31. Et bien, il y a plusieurs acteurs que je connaissais aussi. J'avais travaillé avec plusieurs d'entre eux. Donc, c'est un projet qu'il faut vraiment... C'est rapide. Je sais que Fabienne n'aime pas quand on parle de ça, mais c'est une quotidienne, il faut l'avouer. Il faut être prêt, il faut être en forme, il faut être en forme mentalement, physiquement. Il faut être capable de mettre son ego de côté parce que c'est l'équipe qui compte. C'est d'être capable de livrer un produit de qualité dans des... Et ça se fait très rapidement. Donc, c'est de particulièrement pour les gros rôles. Je pense à Vincent Guillaume-Otis qui a beaucoup, beaucoup de scènes. Ça prend une grande discipline. Les gens l'oublient peut-être, mais apprendre du texte, souvent les gens nous disent « Ah, c'est comment vous faites pour apprendre du texte? » Apprendre du texte, c'est pas la partie difficile d'apprendre du texte, c'est de mettre l'émotion sur le texte. C'est de comprendre ton personnage, il est où, il arrive de où, il est là, il s'en va où, quelle est l'émotion, comment cette émotion s'imbrique dans l'histoire, comment ce personnage-là, ben t'es au service de l'histoire et t'inspires l'auteur aussi par ta qualité d'interprétation. L'auteur, est-ce qu'il aime écrire pour toi? Il y a ça aussi. Donc, apprendre du texte, souvent, c'est une des questions qu'on se fait poser. Si c'est bien écrit, si c'est logique, ça s'apprend bien. Des fois, il y a des textes qui sont plus compliqués. Il y a des auteurs qui ont leur propre langage, ils ont leur propre structure. Donc, c'est de comprendre ce que l'auteur veut dire, la façon dont il dit. Et puis là, ben, c'est d'avoir la souplesse de travailler en équipe, de travailler avec une réalisation, avec l'auteur, avec ce que le producteur veut, ce que le diffuseur. Et c'est ce que ça demande. C'est, souvent les gens ont l'impression qu'on est devant une caméra, puis que, mais il y a un travail qui était. Faut que tu aies une préparation. Faut que, si tu n'as pas de discipline, c'est pas juste être dans un cocktail, se promener en limousine, puis à ce tapis rouge, puis prendre des photos. Il y a beaucoup de gens qui ont le fantasme de devenir des acteurs, mais je dis fais-le. Et là, comme devenir un conférencier, il y a beaucoup de gens qui me disent hey, je veux être un conférencier. Bien, maintenant, ils arrivent sur scène, puis ils font oh! C'est OK, pas c'est pas ça que je pensais, parce qu'il y a du travail, il y a du travail. C'est répétition, travail pour maîtriser ton domaine et former un bon acteur, une bonne actrice, c'est minimum 10 ans. C'est 10 ans d'entraînement, c'est 10 ans d'être devant une caméra, d'être sur une scène, d'improviser, c'est de lire des textes, c'est de lâcher les questions des réseaux sociaux pour aller s'informer ailleurs, faire d'autres choses, lire, observer. Ça, c'est ce que j'aime, le mélange du conférencier et de l'acteur, c'est que ça se rejoint à travers la création, à travers l'observation, à travers le d'être en contact avec le public. C'est cette énergie-là qui me plaît. Mais être un bon acteur, dites-vous bien, là, puis être un bon conférencier, être un bon photographe, il y a une dizaine d'années que c'est cool. C'est le 10 000 heures que Gladwell parlait, Malcolm Gladwell parlait. S'il y a des livres intéressants, c'est Intuition, Le point de bascule, c'est des livres qui... Gladwell, il parlait même des Beatles ou des Rolling Stones, mais c'est des groupes qui avaient déjà 10 000 heures dans le corps quand le succès a gonflé leur voile. C'était pas des gens qui étaient... Il y a comme un désir, un fantasme aujourd'hui de devenir connu rapidement. Mmh. Je fais... Être connu, là, je dirais même, c'est peut-être la partie la moins agréable. Être connu, c'est bien parce que tu as peut-être des meilleures conditions, on te donne un meilleur texte, un meilleur cachet, mais le but, c'est cette vocation-là de prendre un texte, de jouer entre action et coupé, qu'est-ce qui se passe, et tout d'un coup, il y a des moments magiques qui apparaissent, et ça, tu donnes n'importe quoi pour ça. Ces moments-là, je te dis, j'en ai le frisson quand j'en parle, quand tu es sur scène, et un moment donné, tout d'un coup, dans le public, il y a un moment où il y a une symbiose entre ce qui se passe sur scène, entre ce que l'auteur a pensé, ce que le metteur en scène a placé, et tout d'un coup, le public reçoit ça. C'est pour ça que tu fais ce métier-là. Quand on parle de vocation, peut-être que toi, il y a un moment, tu es allé chercher une photo, un moment précis, ouais. Tu as fait « Wow, c'est pour ça que je suis photographe. Mm-hmm. » Avant de te retrouver sur le plateau de tournage, oui, il y a des fois que tu fais des auditions. Oui, des fois, on te donne le rôle. Il y a des équipes qui fonctionnent bien. Il y a des équipes qui fonctionnent moins bien. Il y a des fois que tu as hâte de te pousser de là parce que tu dis « La chimie est pas bonne. » Ça se peut. Le défi d'un producteur, le défi d'un réalisateur, c'est d'arriver à trouver la bonne équipe. C'est pour que la symbiose, pour que la chimie fasse en sorte que toi, tu passes un bon moment quand tu vas écouter ce qu'on a fait. Alors, c'est tout ça qui me plaît dans le métier d'acteur. La conséquence, c'est que tu deviens connu, les gens te reconnaissent. Il y a des fois, au Québec, les gens sont super gentils. Mais il y a toujours des gens qui sont, peut-être parce qu'ils sont intimidés, peut-être parce qu'ils sont gênés, peut-être que parce que ça les fait chier que tu sois connu, puis ils veulent te bousculer, mais ça arrive peu.
Ils sont maladroits un peu.
Ils sont maladroits aussi, fait que des fois, c'est de calmer le jeu. Mais avant de penser faire ce métier-là parce que tu veux être connu, parce que souvent, les gens se disent « en étant connu, je vais prendre contrôle de ma vie », c'est l'inverse qui se produit. C'est quand tu deviens connu, tu as moins de contrôle sur ta vie. Alors, un des exercices à faire, c'est lorsque tu es assis dans un parc, un jour, on va pouvoir retourner dans les centres commerciaux. Peu importe, asseyez-vous et regardez les gens, même dans l'auto, dans le trafic, et inventez des histoires sur les gens que vous voyez. Ah, regardons, Simon, il est avec Rebecca. Tu t'inventes une histoire. Lui, c'est un commis voyageur, alors qu'elle, elle travaille, elle est mécanicienne. Et là, tu pars sur... C'est de toujours faire en sorte que ton cerveau soit un peu allumé. Et après ça, tu décroches. Le but, c'est de prendre des pauses aussi. C'est de rien foutre. C'est important aussi en création. Alors, voilà pourquoi je me suis retrouvé sur District 31.
Wow! C'est une belle et très, très expliquée réponse, mais c'est ça qu'on aime au podcast. Non, mais c'est bon parce que tu as répondu à 3 de mes questions sans les savoir, puis je t'ai pas montré ma feuille avant.
Bon, regarde, tu vois.
Non, mais on se demandait justement, moi, je me demandais en fait au niveau, j'ai demandé à certaines personnes que je connaissais de me suggérer des questions. Des fois, c'est intéressant d'avoir d'autres angles, d'autres opinions. Et puis, un de mes amis m'a demandé, en fait, il dit, ouais, mais il y a des plateaux sûrement que la chimie est plus difficile que d'autres, donc tu viens d'en parler également.
Oui, oui.
J'imagine, de ce que j'entends sur District 31, on nommera pas de nom, on rentre pas là-dedans, mais la chimie a l'air excellente. Vraiment, il y a l'air d'avoir, on ressent à l'écran comme une grosse famille. Je sais pas pourquoi, là, mais
tu n'as pas le choix. Ce plateau-là, tu n'as vraiment pas le choix. C'est ton égo, puis les acteurs vont te tester. C'est un peu... Moi, quand je suis arrivé sur District 31, bon, ça faisait déjà 2 ans que le plateau roulait. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est la première fois que j'ai mal au ventre avant d'aller tourner parce que j'étais nerveux. C'est rapide. Imagine. C'est un nouveau personnage. On avait moins de temps parce qu'il faut, on a plusieurs scènes à faire. Et c'est des acteurs qui sont préparés, c'est des acteurs qui sont bons. Et après ça, tu n'as pas beaucoup de temps pour t'ajuster, pour rentrer dans la grande famille. Alors, ça prend quand même de l'expérience. Des fois, je me disais, oh, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, un jeune acteur ou une jeune actrice, j'aurais été tellement malheureux pour lui ou pour elle.
On pense à Catherine Saint-Laurent, c'est pas vieille non plus à mon âge.
Non, mais Catherine a quand même du background. Elle, oui, oui. C'est une Christie de bonne actrice. Là,
effectivement, on l'avoue.
Elle n'est pas juste belle. c'est une bonne actrice, tout ça. Fait que je pense qu'elle avait été. Elle avait la base assez solide. Donc, c'est de profiter. Si les gens quelqu'un a envie de devenir un acteur ou une actrice, si tu as 16 ans et 25 ans, l'école de théâtre pour te redécouvrir, savoir qui tu es, pour aller au fond de toi, pour apprendre la dramaturgie, apprendre à te maquiller, tu as des cours de ballet, tu as des cours de chant, tu as des cours de diction, tu as des cours d'interprétation, de travailler avec toujours la même équipe. Tu vas des fois tellement profond à l'intérieur de toi que tu peux être surpris de découvrir des choses. Le but, c'est de pas de... Moi, souvent, je disais aux jeunes acteurs, hey, oh, t'es pas obligé d'aller si loin. Le psychologue est à tes frais après la production. Là. Le public t'en demande pas à ce point-là. T'es ouais. pas obligé d'essayer de te pendre pour de vrai. Essaie de jouer un peu. Là. On joue. Et probablement une question que beaucoup de gens se posent, entrer dans la peau du personnage.
Ça doit être difficile.
Ça fait sourire les acteurs lorsqu'on entend ça. Parce que si je joue une scène au théâtre, exemple, où j'ai un couteau dans les mains, et que tout d'un coup, l'acteur devant moi fait « il est entré dans la peau du personnage et j'approche avec le couteau et dans mes yeux, j'ai envie de te tuer », l'acteur va sortir de scène.
Ah oui.
Tu sais que c'est Hugo qui a un couteau dans les mains, qu'on a travaillé une scène et chaque fois que tu commences à penser que tu es le personnage, tu oublies la technique, tu oublies que le metteur en scène te dit à telle phrase, il faut que tu sois là. C'est assez... d'orchestrer les mots, la mise en scène, l'interprétation. Un bon acteur, une bonne actrice, c'est quelqu'un qui est quand même assez régulier et qui, à l'occasion, se permet des improvisations à travers la structure qui a été pensée. C'est d'être capable d'avoir cette rigueur-là et de rebondir parce que le cellulaire d'un spectateur est en train de sonner, l'autre vient d'oublier une réplique.
Pas facile, ça.
tu joues une scène, t'as un caillou dans ton soulier, puis tu dis au lieu de faire « Hey, général, donc continue de jouer. Continue de jouer, ça va peut-être amener ailleurs dans la scène. Ton gilet n'est pas bien placé. Ça joue-le, mais en même temps, c'est toujours Hugo qui est en train de jouer Carl Saint-Denis. C'est de le préparer, c'est de se dire, moi, je sais que personnellement, chaque personnage a sa propre odeur parce que tu peux changer ton odeur. J'ai jamais le même déodorant. Hugo Dubé n'a pas le même déodorant que Carl Saint-Denis. Moi, c'est un des moyens que je me suis trouvé parce que l'odeur, c'est quelque chose qui fait « OK, Carl sent ça ».
Ça doit coûter cher à la fin de l'année à
Speed Six. C'est pas si pire. Non, mais regarde, c'est chaque acteur a sa façon de je ne sais pas si tu as vu « Série noire » qui, pour moi, a été
Claudio Brun.
Voilà. Avec Marc Arcan, le personnage, je l'avais travaillé, Claudio, j'y mettais toujours de la crème, il devait avoir la peau douce. Il y avait toutes sortes de trucs que tu fais avant de commencer le tournage.
C'est très drôle.
Pour être capable d'avoir dans quelle façon, quelle musique il peut écouter, la façon dont il respire. Quand il choque, il y a des mouvements, est-ce qu'il regarde plus de l'œil gauche, plus de l'œil droit? C'est ça que tu peux travailler, mais c'est toujours Hugo Dubé qui a le couteau dans les mains qui fonce sur toi.
Mais c'est tellement vrai.
Tu t'en vas, tu ne veux pas jouer avec moi. Là.
Ah, oui.
Surtout un acteur qui a te frappé. Si un acteur perd le contrôle et qui t'arrache la tronche, tu fais regarde, ça va faire. Il faut que tu apprennes à te contrôler. Mais ça, c'est des professionnels qui font ça.
C'est tellement bien dit.
Voilà.
Ah, mais c'est vrai, parce que les gens oublient souvent, parce que c'est important que tu le dises aussi, que dans le fond, tout ça, de te mettre dans la peau du personnage en tant que tel, parce que je pense que ce qui fait la qualité d'un bon acteur, c'est, comme je disais à ma conjointe, parce qu'on regarde beaucoup, beaucoup de séries québécoises et américaines également.
Puis... Continue, c'est bon.
ouais, non, mais c'est pas vrai. On est en manque en ce moment parce qu'on dirait que tout a comme arrêté subitement. Puis surtout, District 31, c'est plate de ne pas savoir le final. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tous les acteurs qu'on aime au Québec ou américains, leur force, c'est qu'on les reconnaît pas vraiment de personnage en personnage. C'est que, si, mettons, moi, je vois Hugo Dubé dans la peau de Carl Saint-Denis, mais je te voyais dans Providence, je vois pas le même personnage, je vois pas la même personne.
Ouais. Merci, ça c'est un beau compliment.
Quand tu dis que tu vois un acteur et tu dis, coudonc, j'ai l'impression qu'il joue le même rôle que joué dans l'autre série, puis que tu le vois en entrevue aux enfants de la télé ou à autre chose, puis tu dis, coudonc, on dirait qu'il est vraiment comme son personnage. Je pense que c'est la pire insulte de dire que tu es comme ton personnage. Ça veut dire que tu ne joues pas bien ton rôle.
Mais ou tu n'as pas eu le temps. Il y a des fois, dépendamment de la rapidité du rôle, tu es plus défensif. Il y a toutes sortes faut toujours se mettre dans le contexte. Ouais. Lorsqu'on donne du temps de préparation, ce qu'il y a de moins en moins, malheureusement, les Américains ont la capacité d'avoir tu peux te faire des dents, des perruques, tu peux te faire... ils ont du temps, tu as du temps de préparation. L'équipe, c'est entre le cinéma, la télé, une quotidienne, il y a ça aussi qu'il faut regarder. C'est le travail. Moi, j'aime bien faire le travail avant de commencer à tourner. Tu sais, Carl Saint-Denis, ça a été... je suis allé lire beaucoup sur la police. Je suis allé regarder plusieurs chefs directeurs de police à travers le monde.
Tu parlais voir des entrevues.
Je parlais à des policiers. Je joue au tennis avec un policier aussi. Donc, c'était il y a des gestes que tu dois faire. Quand j'ai fait Providence, je suis allé sur une ferme, je suis allé rencontrer un fermier, un producteur agricole, dépendamment. Il y en a qui disent un farmer. Je posais plein de questions. C'était quoi sa journée? Quand je tournais Providence, j'allais sur la ferme et avant que le plateau arrive, j'allais faire le train avec Jacques. J'allais traire les vaches. J'ai veillé des vaches. Je travaillais au champ avec lui parce que je voulais repérer les tics, je voulais repérer y a-tu mal à l'épaule? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est pas ce que Hugo fait?
La
recherche, pour moi, c'est important de travailler ce personnage-là, d'aller découvrir ses mimiques, ses tics, pour pas que ça soit comme... C'est toujours Hugo qui le joue. Là. C'est...
Tellement.
Moi, j'ai mes amis qui disent, regarde, il y en a qui disent, des fois, je le vois, mais des fois, je te connais trop. Je sais que c'est toi qui joues le personnage.
Non, on ne le reconnaît pas, parce que, comme je dis dans Ramdam, tu étais très réconfortant comme personnage, mais dans District 31, on sent l'autorité, on sent le boss vraiment. Là, que moi, je serais rencontré par toi, puis je serais un peu intimidé, mais pourtant, je t'ai rencontré, puis je ne l'étais pas. C'est la différence.
C'était là, c'est la crédibilité. Il y a des policiers, quand ils me voient, ils me disent « Oh, le big boss! » Pour moi, c'est un beau compliment. Ça veut dire que je suis crédible dans le rôle de Carl Saint-Denis. Puis c'est tellement agréable, de toute façon, être le boss.
Exact. Il y a des rôles pires que d'autres. Yannick Dubois, il doit avoir de la misère des fois parce qu'il y a du monde qui prend trop ça au sérieux.
Tout à fait. Ça, Pat a super bien joué parce que c'était délicat ce qu'il avait à faire. Puis il l'a fait de façon merveilleuse parce que c'est délicat. Il entrait dans une zone. Je ne sais pas si tu as vu Les Liaisons dangereuses avec John Malkovich. Si jamais tu n'as pas vu ce film-là. C'est un personnage qui se contrôle pas par rapport à ses pulsions, puis c'est un beau film, Liaison dangereuse avec John Malkovich. Tu vas découvrir un acteur qui est pas nécessairement beau, puis ta blonde, elle va le trouver spectaculairement beau, puis tu vas faire, l'acteur est arrivé à créer quelque chose de c'est vraiment un grand acteur, John Malkovich.
Ben écoute, on prend ça en note. Liaison dangereuse pour tous ceux et celles qui cherchent de quoi écouter. Vendredi,
ça fait quand même un petit bout de temps, là, mais c'était surtout... Il y a Valmont, il y a un autre film, mais Les Liaisons dangereuses, puis tous les acteurs, on aimerait jouer ça. Ça t'amène, ça se passe dans le temps de Versailles, de cette époque-là. Et c'est la pulsion sexuelle, c'est comment ils ils entrent dans les liaisons dangereuses et en même temps, l'acteur a fait un job extraordinaire. La façon dont il l'a amené, c'est délicat comme ce que Patrice a fait, avec Dubois, c'était délicat.
C'est très délicat. C'est difficile parce que aussi, tu sais, on pense à l'acteur qui jouait Séraphin aussi. Je sais que mes parents m'en avaient déjà parlé, qu'il y a eu tellement de misère à sortir de ce personnage-là. Faut dire
fille de Caleb, t'en parlais tantôt. Oui, il y a quelqu'un qui avait voulu se battre avec moi parce que je m'étais battu avec Ovila. Là, j'ai dit, c'est un rôle.
C'est une autre mentalité aussi. On parle de l'époque de mes grands-parents qui croyaient à la lutte. Puis,
et je te dirais que la télé, c'est très, très fort pour faire croire bien des choses. Les gens ont. Le personnage, c'est le Geneviève Schmidt actuellement.
Hey boy, oui, ça ne doit pas être évident.
C'est ça.
Nancy Riopel.
C'est ça. Et tu vois, bon, mais Geneviève est extraordinaire, je vous dirais, dans la vie. C'est tellement. C'est du bonbon, cette actrice-là.
Y a-tu justement un rôle, je pourrais dire, que. Parce que toi, c'est quand même, je pourrais dire, pas évident, mais dans le sens que tu le sais que tu ne te feras pas détester par le rôle que tu joues actuellement. Mais y a-tu un rôle, si on veut, que. Tu sais, qui serait intéressant pour toi d'accepter ou de jouer, que tu n'as jamais tourné encore, puis tu dirais, ça, là, j'ai jamais été là, puis j'aimerais ça un jour faire ce type de rôle-là.
L'itinérance, je suis jamais allé, j'ai pas joué ça, j'ai pas ce monde-là de devenir invisible parce que tu es dans la pauvreté, tu es dans la bouffe, la toxicomanie. J'ai pas exploré cette zone-là. C'est quelque chose qui est intéressant, mais on l'amène pourquoi, dans quel but, c'est ça qui est intéressant aussi. Je suis pas allé dans cette zone-là. Avec Claudio, j'ai joué le côté homosexuel, les gangsters, j'ai joué les papas de famille recomposée. Mais en même temps, peu importe les rôles, tu arrives toujours à en tirer quelque chose de différent. Un conférencier, j'aimerais ça faire ça aussi.
Ah ben oui, tu pourrais bien y comprendre.
Oui. Ça, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Mais moi, je verrais un autre angle derrière la motivation, tout ce qu'il peut avoir aussi, tu sais. Ça serait des zones qui m'intéresseraient à exploiter. Là.
Tu me fais penser à une autre question. Et moi, j'y vais sur ce nom. Mais c'était pas marqué sur ma feuille, c'est pas grave. Tu sais, on pense à un acteur, j'ai énormément de respect au niveau américain. On pense à Matthew McConaughey, qui est vraiment... Oui. Écoute, il peut se transformer de A à Z pour un rôle dans Dallas Buyers Club. Je pense qu'il avait...
maigri de beaucoup.
Écoute, il était rendu quasiment anorexique. Oui. Ça doit pas être évident parce qu'il y a beaucoup de rôles qui exigent une transformation extrême, que ce soit par la perte ou la prise de poids. Toi, est-ce qu'il y a des rôles que tu as refusés, mettons, au niveau transformation physique, ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur?
Mais transformation physique, c'est les Américains ont le temps. Tu as une équipe qui peut, tu sais, ici, on a moins le temps. On se promène beaucoup d'un plateau à l'autre pour arriver. Un acteur premier rôle américain n'a pas le même cachet que nous. Et puis nous, on est comme un petit peu obligés. Un acteur qui a une barbe, il l'a longtemps parce que tu peux trouver sur deux productions, trois productions menées. Et c'est comme c'est pas tourné en même temps, la prise de poids. Dernièrement, Stéphane Demers, dans Fait d'hiver, s'est rasé les cheveux parce qu'il avait le temps de le faire. Il a fait une transformation drastique. Et Steph, il est comme ça. Oui, mais puis je ne sais pas si tu as vu Fait d'hiver, mais son rôle est extraordinaire là-dedans. Alors, il a fait cette transformation-là. Il y a peut-être des zones. Moi, il y a une zone que je ne voulais pas aller. C'était la zone de la pédophilie. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme on m'avait proposé un rôle là-dessus, puis j'ai fait « no way ». Et puis moi, souvent, mon agent, je me dis « je ne suis pas cool ». Moi, je suis bien cool dans la vie, sauf quand tu touches aux enfants. Et comme acteur... ça m'intéresse pas de qu'on mette ça à l'écran. Je suis pas cool. Pour moi, les enfants, si vous touchez pas aux enfants, c'est des joyaux, c'est ce qu'on a de plus beau. Et ça dure de moins en moins longtemps, l'enfance. Alors, laissez-les être des enfants. Puis, alors, c'est pas une zone qui m'intéresse.
Moins facile que d'autres, là, tiens,
pourquoi il y a un journaliste qui en avait parlé? Puis j'ai fait, c'est vrai, on a tendance à... Surtout, là, puis là, on est là-dedans, là, tout est devenu dangereux, tout est devenu... Là, tu fais, waouh, il va falloir retrouver un plaisir à travers tout ça, parce que ça devient
lourd. On surprotège les gens, là, on surprotège la population, que ce soit des enfants par l'éducation ou parental
également.
Risque
zéro, là, je ne sais pas, tu n'as pas d'enfant encore, toi, un jour,
non,
peut-être?
Non, bientôt, j'espère.
Ah, bon, ben, c'est déjà un bon début. C'est parfait, je te le souhaite.
Ben oui, c'est sûr. Ben non, on sait pas, comme on dit, l'avenir nous dira comment la société va évoluer, mais sincèrement, j'espère ne pas élever mes enfants dans du papier bulle puis de, d'avoir peur. T'sais, c'est sûr, je pense que comment j'ai été élevé, comment mes parents ont été élevés sont à peu près de ta génération ou tu es peut-être un peu plus jeune, mais ça reste quand même que c'était différent de génération en génération. Je pense que toi, probablement, tu sortais dehors en vélo puis tu n'avais pas de pad sur les genoux puis sur les coudes. J'avais la totale.
Oui, toi, tu étais équipé pour...
Non, au début, j'avais les quatre roues. Puis
oui, ça, on l'a tous su. Mais mon grand-père pouvait aller à 10 km de chez lui. Mon père à 5 km. Moi, j'étais à 3 km.
C'est ça.
Puis toi, tu étais peut-être à 1,5 km. Les jeunes, c'est 300 mètres.
C'est ça.
Et c'est parce qu'avec les réseaux sociaux, avec on a toujours l'impression que ce qui se passe en Australie, c'est en train de se passer ici à Montréal ou à Laurentides ou peu importe.
Ah, ben non,
est-ce que chaque parent, tu sais, on veut le meilleur pour nos enfants, on veut les protéger. C'est de trouver l'équilibre aussi.
Exact. Ce qu'on conseille, ceux qui veulent surveiller leur enfant, faites comme mes parents, mettez un flag orange sur le dessus de leur vélo, puis ils vont pouvoir faire le tour puis le regarder au loin.
Ah ouais, c'est
plus
ça,
facile.
Et en même temps, j'avoue qu'au début, quand ton enfant dit « je peux-tu aller au parc tout seul? Oui. » il y a tout ce qui dit, c'est précieux. Puis il dit « un enfant, c'est une œuvre d'art. Pour le protéger, il faut l'encadrer, mais il ne faut pas l'étouffer non plus. »
Effectivement. Mais on va revenir dans le vif du sujet,
oui,
si on veut.
Oui, vas-y.
Dans le fond, moi, j'avais plusieurs questions au niveau de ton métier, naturellement, vas-y. Au niveau d'acteur. Je te dirais, c'est la question qui me trottait le plus dans la tête, c'est, mettons, une journée, au niveau acteur, c'est difficile d'apprendre son texte, tout ça. Il y a des journées plus difficiles qu'il y a d'autres. Y en a-t-il une qui vient en tête au niveau d'un plateau de tournage que ça a été difficile pour toi, qui n'a pas été évident, mettons, là. Pas obligé de le nommer, là, juste de dire...
Non, mais plus difficile, quand on tournait Série Noire, c'est fabuleux, mais on a tourné l'hiver. Et à l'extérieur, nous, dans Série Noire, on a choisi de montrer l'hiver. On l'a quand même 6 mois par année, l'hiver. Et c'était comme un personnage qui était omniprésent. On sentait l'hiver partout.
Oui.
Mais quand tu tournais dehors avec ton petit jacket de cuir, puis que le vent il fait moins 25, moins 35, et ça tourne, tu le fais sur plusieurs jours, puis que tu te lèves à 6 heures le matin, tu finis de tourner plus tard, tu apprends tes textes, fait que tu as peu de sommeil, la récupération est plus difficile. À un moment donné, le corps se fatigue. Il y a quelqu'un qui, on appelait ça au début, un plateau qui avait du scorbut parce que tout le monde toussait, tout le monde était, on est passé au travers. Fille de Caleb, justement, là, quand je me bagarrais avec Roy, on l'a repris plusieurs fois, c'était une grosse journée de cascade, de chaque plateau, et oui, il y a des plateaux qui sont plus faciles, mais il y a des plateaux qui... tu as des journées où tu as plusieurs scènes à tourner.
Oui.
Quand on tournait Caserne 24, en pompier, habillé en bunker, puis on était des canicules, il faisait 28-30, puis qu'on passait 6 heures de temps avec un habit qui résiste à presque au-dessus de 500 degrés de chaleur. Tu es habillé en pompier. Même les pompiers disaient « on ne le porte pas aussi longtemps que vous autres, l'équipement ». Alors, c'était parce qu'il fallait faire nos journées. On avait... parce que si tu bloques un quartier pour tourner, mais les gens, ils veulent pas que tu passes là 3 semaines parce qu'ils ont une vie à vivre. C'est bien beau, la télé. Mais si tu bloques des rues, tu peux pas aller garer ta voiture, tout ça. Donc, c'est des journées bien remplies. Fait que je pense que chaque plateau de tournage a ses moments merveilleux, ses moments plus difficiles.
Oui.
Tu dis, apprendre du texte, c'est difficile. Comme je te dis, ça dépend.
Ça dépend de chacun.
Il y a plein de la qualité de l'écriture, le personnage, tout ça. Bon, mais il y a des journées plus difficiles. Moi, j'avais déjà demandé à quelqu'un qui était dans le domaine financier, je dis, est-ce que ça t'arrive d'entrer chez toi et de trembler quand tu ouvres la poignée de porte? Il dit, ça m'est jamais arrivé. Ben, moi, ça m'arrivait comme humain parce que tu avais... Le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie et une fausse émotion. Il vit l'émotion.
Ah, ça doit être spécial. Puis tes proches aussi doivent vivre avec ça aussi d'un bord.
Oui, ma blonde, elle a le génie. C'est pour ça que ça va faire 30 ans que je suis avec elle bientôt.
Félicitations.
Merci. C'est une femme extraordinaire. Je souhaite ça à tout homme qui le mérite. Mais
c'est
elle me
disait... de nos jours, 30 ans, on en profite.
Et puis, j'arrivais à la maison, puis elle me disait, je te laisse revenir dans ta vraie vie. Puis je disais, merci, parce que des fois... C'était une des scènes que le monde me disait, vous passez, vous embrassez d'autres femmes.
Oui, c'est vrai, on n'y pense pas à ça, mais c'est pas évident. Hein?
Non, c'est pas évident. Il faut que ça soit fait dans le respect. Il faut que tu apprennes à apprivoiser l'autre. Et c'est de jamais dépasser cette zone-là, sinon tu enlèves la magie. Alors, ouais. Ben, si tu as un partenaire qui n'est pas compréhensible, si tu as un partenaire qui est jaloux, si tu as un partenaire qui n'a pas confiance en lui, ça devient l'enfer parce qu'il mélange les trucs. Moi, ma femme est venue sur les plateaux, elle sait comment, de quelle façon ça fonctionne. Puis, que ce soit sur les bâtisseurs d'eau, Nick Lemay, il y a plein d'actrices, tout ça. Oui, c'est délicat. Et il faut le faire dans le respect, il faut apprendre à se connaître, et c'est merveilleux, ça fait partie du job, mais ce n'est pas que ça. Là,
non, exactement.
C'est des cascades de l'amour, il faut le faire vraiment. Moi, le but, c'est que l'actrice se sente bien, que je me sente bien, et puis que ça soit fait dans l'harmonie professionnelle.
C'est vraiment bien dit. Puis c'est sûr, c'est souvent difficile. C'est une question qui m'était souvent passée par la tête aussi, d'imaginer comment un acteur peut rentrer dans sa bulle au point de dire ouais, « ma femme va regarder ces images-là quand même ». C'est pas évident.
Faut pas que tu penses à ça. Non, c'est ça. Ça, c'est comme si tu penses à ça, t'es cuit. T'as une scène à faire. Faut même pas que t'oublies l'équipe technique qui est devant toi. Tu rentres dans le moment, mais il y a un travail qui s'est fait. Il y a ce travail d'intimité. Parce que quand tu as ces scènes intimes-là à tourner, généralement, les acteurs, les actrices, on trouve le moyen de saupoudrer d'intimité pour que toi, tu y crois. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est délicat. Il faut le faire dans le respect. Puis moi, je m'organise toujours pour que ça soit dans ce respect, l'harmonie, le respect, puis que je discute beaucoup avec ma camarade de travail pour que ça elle se sente bien, puis que je me sente bien. Puis jusqu'à présent, ça s'est très bien passé.
Écoute, c'est vraiment excellent comme réponse. Puis, une autre question qui me vient en tête par rapport à ce que tu viens de me dire, les gens, ils pensent pas non plus, là, mais ça, c'est quand même qu'une grosse partie du métier d'acteur, c'est comme toi, District 31, tu as beaucoup, beaucoup de jours de tournage consécutifs. C'est une quotidienne, c'est beaucoup de temps dans une année. On a entendu parler comme des Magali Lépine-Blondeau aussi qui ont quitté la production parce que c'était, je sais qu'elle avait parlé dans une entrevue aussi qu'elle trouvait ça quand même beaucoup, beaucoup de temps, puis elle avait d'autres projets en tête aussi. Tu dois mettre de côté certains projets ou si tu as d'autres productions que tu aimerais faire parce qu'il y en a qui doivent se consacrer, comme Patrick Bissonnette aussi, son personnage, ils doivent se concentrer 100% quasiment à ça.
Oui, je te dirais, il y a quelques... Le corps ce qui se passe sur le plateau, dans le district. Moi, je suis un peu à l'extérieur, fait qu'il y a des fois, je peux être là, je ne suis pas là. Mais Michel, Gildard, VGO, Vincent, Guillaume, bon, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix. Ils rentrent, c'est quasiment au monastère, tu ne fais que ça. Puis après ça, ben ils vont faire autre chose. Ça fait partie de l'entente qu'ils ont. Exactement. C'est quand même 150 jours de tournage.
C'est beaucoup quand même.
Oui. Alors, tu peux pas... Tu mets de côté pour après ça, durant l'été, faire peut-être autre chose. Ou c'est sûr, tu vas pas jouer au théâtre parce que c'est plus compliqué. Ouais. Ils aiment moins ça parce que tu es quasiment... Surtout si tu as des jeunes enfants. Il faut être logique dans tes choix aussi. Et en même temps, des fois, tout arrive en même temps. Tu peux être une période, tu n'as rien à faire. Boum! Moi, je me souviens, Providence, je faisais Providence, Ramdam, je faisais 60 à 80 conférences par année.
Oui, quand même.
Alors, c'était... J'avais des jeunes enfants. C'était vraiment... c'est pour ça que ça te prend un partenaire de vie qui est capable de s'ajuster à tout ça aussi. Là. C'est pas... Il y en a qui ont des horaires. Je fais, comment vous faites? C'est extraordinaire parce qu'ils ont des charges de travail énormes. Chapeau. C'est de trouver... Le but, c'est pas de faire un burn-out. Là. C'est faire un épuisement professionnel, c'est pas ça qu'on veut. Là.
Non, mais c'est difficile aussi de savoir la limite, là, mais c'est vraiment important de trouver le bon équilibre aussi. Aussi, une question que par rapport à ce que tu viens de parler, y a-t-il quelque chose... As-tu déjà eu peur, mettons, dans ta carrière de tomber en quelque sorte dans l'oubli? Parce que on voit souvent des acteurs qui... On a vu beaucoup, mettons, durant une période de leur vie, exemple de 30 ans, 40 ans, puis que tout d'un coup, whoop, il y a eu moins de rôle pour eux, puis à un moment donné, ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler, ils reviennent un peu à la surface. Est-ce que de ton côté, tu as déjà eu peur de tomber dans cet oubli-là en vieillissant?
Tu dis, j'ai déjà eu peur parce que tu as l'impression que j'ai jamais été oublié.
Ben non, parce que moi, je t'ai toujours vu assez régulier.
C'est ça qui est étrange parce que j'ai eu des périodes où il ne se passait rien. D'où pourquoi un jour je suis devenu conférencier aussi, parce que j'ai dit, le téléphone ne sonne pas, il faut que tu te renouvelles en autre chose. Et là, c'est là que j'ai dit, je vais utiliser la force que ma capacité, le don oratoire que j'ai, de toucher les gens, de leur parler. Alors, c'est pour ça que j'ai développé une conférence. Si j'avais toujours été sur les plateaux de tournage, j'aurais pas eu ce temps-là pour dire, y a-t-il autre chose que je peux faire? Y a-t-il un autre univers que je peux découvrir? Parce qu'il y a eu des moments où il se passait rien, mais c'est parce que toi, tu peux voir des reprises. J'ai tourné de quoi qui se fait, mettons, en 2018, qu'on va sortir en 2020.
C'est vrai, nous, on l'a
vous le voyez pas, mais nous, si tu fais, tu travailles pendant 2 mois, puis après ça, ils sortent 18 mois plus tard, puis tu reprends un autre plateau, les gens font « Ah, il est partout ». C'est juste que le timing, lorsque l'apparition arrive, le but, c'est de rester désirable. Ça, c'est difficile.
Exactement.
C'est rester désirable, mais dans tout ce qu'on fait, c'est de pas que les gens fassent « Ah, je suis plus capable, je... ». Alors, c'est cet équilibre entre accepter des choses, refuser des choses, aller explorer un autre monde, de le faire parce que tu as envie de le découvrir, de le faire parce que ça te passionne, mais aussi ce désir d'être désirable parce qu'on fait partie d'une tribu et particulièrement dans le monde de la conférence, dans le monde de l'acting, c'est de trouver cet équilibre-là pour que les gens disent « Ah, lui, j'aime ça quand il est là. Ah, ça me plaît, je suis content. Pas, ah, c'est boy, pas encore lui. »
C'est tellement vrai. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient aussi parce que c'est important de se renouveler parce que, comme tu dis, je pense que c'est important aussi de savoir être polyvalent parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses comme toi, mettons, tu as réussi à devenir conférencier, tu sais, tu as sorti ton livre, tu as vraiment trouvé des façons que les gens ne t'oublient pas puis se souviennent de la qualité d'acteur que tu es aussi par tes conférences. Tu le vois aussi, hey, ce gars-là s'exprime tellement bien puis tu restes en même temps un peu dans la mémoire. C'est un peu ça que les gens me disent. Pourquoi, par exemple, tu as parti ton podcast? Mais moi, je pars mon podcast, c'est simple. C'est parce que là, en ce moment, j'ai plus de conférences parce que les écoles sont fermées. J'ai plus de contrat de photo parce qu'il n'y a plus rien sur Terre de sport. Fait que, ouais. C'est quoi je fais? Je reste chez nous à rien faire? Ben non, je me renouvelle d'une autre façon. Je pars un podcast. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, je vais trouver une façon de reconnecter avec mon public. Je vais pouvoir revoir les jeunes qui m'écrivent en privé pour avoir des conseils. Je vais pouvoir faire découvrir d'autres parcours que j'ai connus comme le tien à travers ma carrière. Puis tout ça va me donner quoi? Ben, va me donner des contacts encore plus. Va juste faire en sorte que je ne tomberai pas dans l'oubli. Puis les gens vont se rappeler tout le temps de moi. Puis quand il va avoir une occasion, quand tout va repartir, ben, je vais peut-être passer en avant de l'autre qui est resté chez lui à rien faire. C'est de trouver une façon de rester connecté. Et toi, par les conférences, ben, ça l'a très bien fonctionné aussi.
Oui, oui, ben, c'était le but. Puis en même temps, c'est pas juste tomber dans l'oubli, c'est de rendre service. C'est la question qu'il faut que tu te poses. De quelle façon j'ai envie de rendre service? De quelle façon je vais utiliser mon talent pour que... Il y en a qui... C'est par la cuisine. Il y en a d'autres, c'est par au niveau financier. Il y en a... Tomber dans l'oubli, ça se peut. Puis si tu tombes dans l'oubli, il y a une raison. C'est facile d'accuser tout le monde, mais tu dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon j'ai entretenu le feu pour que ça continue ce désir-là. Mais c'est surtout de quelle façon je peux rendre service. Et la crise qu'on est en train de vivre, c'est une occasion extraordinaire de se poser cette question-là. Et à partir de ce moment-là, c'est de prendre le temps de tes forces, tes faiblesses. Puis là, ben, c'est il y a quelque chose qui va se passer. Tu dis ça m'allume, c'est là que je peux être utile, c'est là que tu y vas. Ça se peut que ça ne soit pas demain matin que ça fonctionne. Il faut avoir aussi la chance. On oublie beaucoup de la chance y est pour beaucoup d'être là au bon moment, de repérer l'opportunité et que la chimie entre quelqu'un qui dit « Wow, ce que tu fais, je t'y vais à l'école, mais cette personne-là a les moyens de t'en faire 25. » Puis, bon, tu fais une belle photo d'un joueur de soccer. Son agent dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes parce qu'il s'en va à tel endroit. » Ben, c'est une question de chance. Hein?
Exactement. C'est un peu parallèle que je pourrais faire avec ce que tu viens de dire. C'est que moi, j'ai 3 conférences, en fait, puis j'ai une de mes conférences qui s'appelle « Créer vos propres opportunités ». Parce que c'est j'entends souvent le mot « chance » aussi. Il y a bien des gens qui me connaissent, qui me disent « Hey, t'es chanceux, toi, t'es au stade, sur le bord des lignes de touche, puis t'es à côté des joueurs, ou t'as accès à des événements, ou t'es sur le banc du stade olympique, mettons, avec les joueurs des Blue Jays. Tu sais, t'es chanceux. » Ben, je suis pas chanceux. Cette chance-là, je l'ai créée. J'ai pas eu de... Il y a pas personne qui qui m'a écrit une journée, ben, ça te tente-tu d'être photographe là? Je dis, ben non, regarde, moi, j'ai quand même réussi à atteindre mes buts, mes objectifs, simplement parce que j'ai atteint mon rêve en devenant photographe sportif, mais il n'était pas atteint, rendu là. J'ai fallu que j'écrive à chacune des organisations sportives pour en devenir ce que j'ai voulu devenir. Fait que la chance, je l'ai créée. J'ai créé mes propres opportunités. Puis par la suite, ben, des bonnes choses qui arrivent, comme on dit. Fait que c'est vraiment ça, en fait, que je veux enseigner aux gens. Puis comme tu le dis, ben, par la suite, tu peux faire ce que tu aimes quand tu es passionné aussi.
Ben oui, oui, et ça se peut, mais il y a des gens qui ne sont pas... Moi, lorsque j'ai fait des conférences, il y a des gens qui me disaient « Ça va? »
Oui, excusez, non, c'est parce qu'il y a un petit problème. Okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais il y a comme un petit... Je vais le couper au pire.
Okay,
il y a comme bon. Un petit problème avec le scanner. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mal scanné tout seul.
En fait, tu as dû accrocher un bouton.
Oui, ça
Et tu sais, il y a des gens dans les conférences, je le dis, ça se peut que ta job, tu n'es plus capable, mais tu es à 4-5 ans de prendre ta retraite, continue, mais c'est de te trouver un AB, c'est de te trouver quelque chose qui te lève de ton sofa, qui t'amène à vouloir découvrir autre chose. Moi, ce que j'appelle l'inconfort créatif, le fameux sortir de sa zone de confort, mais sortir de ta zone de confort, on est bien dans le confort. La création, l'innovation sert à ça, sert à nous rendre confortables. La fenêtre qui protège du vent ou de la chaleur ou du froid, les vêtements, tout ce qui est autour de nous, c'est toute la technologie, tout ce qui se crée, c'est pour rendre les choses confortables. Et c'est de dire oui, mais à l'occasion, c'est de s'entraîner à sortir de sa zone de confort et revenir dans cet inconfort créatif et de dire qu'est-ce que j'ai appris. Si tu ne le fais pas dans ta job, mais trouve-toi un AB pour entrer dans ce qu'on appelle le flux. Le flux, c'est ce moment présent où tu oublies l'heure, tu oublies que tu as mangé, tu oublies que tu as bu, tu es juste bien, tu es juste là, tu es juste, tu fais waouh, je suis en train de je suis bien. Puis ce flux-là, je ne sais pas, quelqu'un qui, pour être capable d'enclencher, l'exemple que je donnais, c'est, je ne sais pas, tu as peur de nager, mais tu t'en vas prendre des cours de natation, et à mener les cours de natation, il y a quelqu'un qui te monte à nager, mais nager, soit peut-être aller dans un jour en voyage dans le sud, là, tu te mets à faire de l'apnée, là, tu vois des coraux, mais des coraux, ça va peut-être donner l'idée en revenant au Québec de ça ressemble à un bonsaï. Ben, un bonsaï, ça va peut-être te faire rencontrer l'amour de ta vie, ça va peut-être te faire rencontrer
rien
quelqu'un
qui arrive pour rien.
C'est le but, c'est comme on se disait, d'être en mouvement, de sortir de ta zone de confort, mais pas toujours être dans l'inconfort, tu vas casser en deux. Ça ne donne rien, il faut à un moment donné récupérer. Et souvent, je le dis, la pause, elle est importante et c'est là que les gens la négligent. Ceux qui s'entraînent, le fait de rien faire fait partie de l'entraînement aussi. Et il y a des moments où tu dis, je ne sais pas, ça fait combien de temps, tu as 27 ans, mais tu dis, je ne fais rien aujourd'hui. Des fois, je travaille, puis je regarde un oiseau, et moi, il y a des nids de merles d'Amérique, des rouges-gorges, puis des fois, je fais juste les regarder. Je les regarde, puis je vois la femelle qui s'approche de moi pour voir s'il y a un danger. Après ça, le mâle, ils font chacun leur petit bout. Mais si tu es trop occupé, si tu n'as pas le temps de regarder ce que la nature... Souvent, je dis aux gens en auto, ferme ton cellulaire, ferme la radio, ferme ta gueule. Regarde la vie s'offrir en spectacle
tellement,
autour de
ouais.
toi. C'est difficile, par contre. Et le meilleur moyen, 15 minutes de méditation une fois par jour. Juste t'asseoir, apprendre à respirer. Et au début, là, c'est un feu d'artifice dans ta tête. Et tranquillement, pas vite, ça prend... C'est très long avant de calmer ton esprit. Et le fait de ne rien faire, le fait d'aller prendre une marche, de lâcher ton projet, ça se peut que ce soit là que l'idée fasse « Je viens de trouver la solution. » Boum! Parce que tout d'un coup, j'ai laissé vagabonder mon esprit, ce qu'on appelle exact. Le mode par défaut.
Oui, parce qu'on a comme plusieurs cerveaux, on dirait. Hein? On a plusieurs cerveaux. Puis, c'est vraiment ça qu'on peut les exploiter comme on le veut. Tu sais, je pourrais dire, moi, quand je faisais un emploi plus stable, je pourrais dire, jusqu'à là, pas tant longtemps que ça, avant que je me lance à mon compte, bien, je me souviens très bien d'avoir senti ce cerveau-là créatif complètement, je pourrais dire, pas submergé, mais enfoui en moi. Puis j'avais plus de créativité, je me sentais plus, je n'étais pas passionné par mon métier. Non, j'avais pas le temps de prendre le temps de créer ou d'imaginer. Je suis quelqu'un aussi qui est un artiste au niveau portrait, dessin et mine. J'en faisais plus depuis 2 ans. J'étais incapable d'être inspiré. Puis à la seconde que j'ai arrêté mon métier, que j'ai décidé de me lancer dans le vide, de carrément me lancer à mon propre compte en photo, et par mes conférences, bien, toute la créativité a tout d'un coup repopé, puis je me suis mis à redessiner, à écrire. Tout a sorti de mon cerveau que je me disais que non, je pensais que je l'avais perdu ce côté-là. Ben non, ouais. C'est quand on se lance dans nos passions, dans nos projets, que tout d'un coup la créativité, et quand on prend le temps de s'arrêter, comme tu dis, de méditer un petit peu sur
c'est
nous.
C'est la base, c'est réfléchir. Et après ça, t'enclenches, tu réfléchis. Le chiffre que je lance, je ne sais pas si c'est le bon, il disait que dans les années 85, il fallait gérer 1,5 gigaoctets d'informations. On dit qu'en 2020, là, on est proche 13 gigaoctets d'informations. Il y a tellement, ça bouge tellement. Et surtout, si j'ai suivi beaucoup de masterclass, et si ça revient tout le temps, c'est lâche l'ordinateur à un moment donné, lâche le numérique et va vers l'organique. C'est un des secrets dans tout. À un moment donné, tu ne peux pas être surstimulé. Si tu n'es pas capable de pas aller sur ton Twitter ou d'aller sur Facebook, à un moment donné, il faut que tu t'entraînes à te le sevrage.
Aller dans la vraie vie un peu.
Voilà.
C'est ça, exactement.
Je ne sais pas combien de temps on est à combien de temps. Là?
Oui, on a déjà atteint le fameux chiffre de
45 minutes.
Une heure, je pense. Bon, regarde, ça a tellement débordé, je ne m'en suis pas rendu compte.
C'est parfait.
J'ai deux petites questions pour toi en finissant. Je ne prendrai pas plus de ton temps. Question au niveau tournage, dernière au niveau de ton métier d'acteur. L'acteur qui t'a le plus, ou l'actrice qui t'a le plus impressionné avec qui tu as joué? C'est qui? C'est un nom qui te vient en tête, un ou plusieurs?
Moi, ça a été... écoute, j'ai eu le bonheur de jouer avec Thierry Lhermitte, qui est probablement une des plus grandes stars de la francophonie, un acteur extraordinaire. J'ai fait la Nouvelle vie de Paul Schneider, qui est un roman français qui se tourne au Québec. Et Thierry Lhermitte, ben, en France, c'est considéré... Il y a Gérard Depardieu, tout ça. C'est, je ne sais pas si tu as déjà vu... c'était quoi le. Sais-tu, le Père Noël est une ordure? Il a joué dans. Non, mais c'est. Il fait vraiment Thierry, et puis ça a été. C'est pas le Père Noël est une ordure, c'est vrai. Dîner de con.
Oui.
Entre autres, Dîner de con, bon, ben. Pas américain, ils ont moffé le film.
Le fameux film français, Dîner de con.
Dîner de con, c'est ça. Bon, lui, c'est lui qui se fait mal dans le dos, c'est lui qui est pris avec le con. Ben, ça a été un moment, c'est de travailler avec une star internationale, qui d'ailleurs, il vit souvent au Québec, très gentil, ça a été un beau moment avec un réalisateur français. Je dirais beaucoup, moi, avec qui ça m'impressionne de travailler, avec les acteurs et les actrices qui ont envie, qui ont cette vocation-là, qui ont envie de partager, qui ont envie de faire un beau moment, qui ont envie d'échanger, qui ont envie que la scène atteigne son niveau. Et puis là, une fois que c'est là, ben, pour le plus grand bien du spectateur, c'est travailler avec quelqu'un qui est toujours sur la défensive parce que c'est son ego qui est juste en recherche de faire avancer sa carrière, ça se sent tout de suite, ce petit fait. C'est moins intéressant, tu travailles avec lui, mais c'est des gens qui se privent de beaucoup d'occasions. Mais quand tu travailles avec des acteurs qui ont le goût d'être au service du texte, de la réalisation, pour le plus grand plaisir du spectateur, c'est ceux-là qui m'impressionnent.
C'est tellement
donc,
bien.
Ouais. Je suis régulièrement impressionné par la qualité du travail de mes camarades, confrères, consoeurs de métier.
Écoute, c'est très, très
Christiane Pasquier, j'ai fait Disparu dernièrement chez Duceppe en novembre avec Sophie Cadieux, une brochette. Mais Christiane Pasquier, qui est une actrice qui a 70 ans et plus, je la regardais à tous les soirs, la charge qu'elle avait par rapport à son personnage. Puis je trouvais la quiétude qu'elle avait dans les loges, tout ça. C'était une grande dame. Mais ceci étant dit, ceux qui ont cette vocation-là, qui ont cette passion, il m'impressionne.
Tellement. Puis, tu sais, c'est important aussi parce qu'on peut s'inspirer de gens plus vieux qui ont plus d'expérience que nous.
Et plus jeunes aussi. Il y en a un paquet. Là, tu fais waouh, il y en a. C'est pas tellement l'âge que l'amour de ce qu'ils font, l'amour de partager, le plaisir d'être là, le fait de savourer. Le danger, c'est de penser que ça t'est acquis. Le danger, c'est de penser que parce que ça fait quelques séries que tu fais, tout d'un coup, tu deviens blasé. Des fois, c'est peut-être bon de te faire oublier parce que ça te fait savourer après quand tu reviens.
Ça
amène l'humilité. C'est un métier qu'il faut faire humblement. Parce que, comme tu dis, du jour au lendemain, avoir la santé, souvent on l'oublie. Quand tu es jeune, à ton âge, ça va, mais de garder ta santé, parce que ça fait partie d'être capable de créer. Si ton corps ne peut pas suivre la cadence, si ta tête ne peut pas suivre la cadence, si ton cœur n'arrive pas à t'amener là où tu vas aller, c'est un poids de plus. Donc, ne serait-ce qu'avoir la santé, c'est un christi de beau cadeau qu'on a tendance à oublier. Et quand tu gagnes en âge, il faut que tu t'organises pour que cette santé-là soit là. Parce que j'avais un vieux maître de théâtre, Jean Dalmain, il parlait un petit peu comme ça, lui. Il disait, ça prend trois choses, la santé, le talent et le culot. Ça prend ça pour être photographe, pour être conférencier, pour être un acteur. Mais la santé, là, on l'oublie. À ton âge, c'est pas une priorité, mais tu vas voir que plus les années vont avancer, tu te rends compte que, et je regarde autour de moi, et j'espère que les gens vont le réaliser, parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont oublié qu'on pouvait regagner cette santé-là. Oui, ça peut prendre un certain temps. Oui, il faut revisiter sa façon de manger. Actuellement, au niveau économique, pour certains, ça peut être plus difficile, je le respecte. Le sommeil est important aussi. Il y a tout ça, c'est tellement simple. Le sommeil, être bien entouré, aimer ce que tu aimes, bien manger, et sentir que tu es en train de travailler dans où tu es utile. Et être humble, moi, je pense que ça crée le terreau des possibilités.
Exactement. C'est vraiment exactement ça. C'est de garder l'humilité, je pourrais dire, à travers tout son métier, parce que souvent, on atteint notre objectif, puis la tête peut enfler aussi, mais c'est important de garder les deux pieds sur terre, bien grounded.
Tout à fait. Et tu le vois, peu importe l'âge, il y en a qui ont... ça bouscule le succès, là. C'est quand tout d'un coup, tu as de nouveaux amis, tu as un buzz, mais ce buzz-là peut disparaître très, très vite. Donc, exactement. Et souvent, après... Quand tu tournes, mettons, un plateau de tournage, après ça, tu me poseras l'autre question, mais pendant 35 jours, tu as quelqu'un qui vient te chercher, il y a quelqu'un qui t'habille, il y a quelqu'un qui te coiffe, il y a quelqu'un qui te maquille, il y a quelqu'un qui t'amène de la bouffe, il y a quelqu'un qui a toujours... Tu as une chaise sur laquelle tu t'assois, tu as toujours quelqu'un qui s'occupe de toi, et là, tout d'un coup, bang, c'est terminé après, retourne chez toi.
Tu t'occupes de toi.
Les deux, trois premiers jours, tu fais « Ah oui, c'est bon, mais après ça... » Il y a un vide qui t'envahit. Il faut que tu apprennes à gérer ces périodes-là. Il faut que tu apprennes à te reconstruire après ces moments-là. Donc, peu importe le métier que tu fais, c'est est-ce que tu rends service? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que ce métier-là, tu as l'humilité de le faire? Et c'est là que tu vois les grands et les grandes. Généralement, ils ont cette espèce d'humilité-là parce qu'ils apprennent beaucoup. Là, j'ai parlé beaucoup, mais normalement, j'aurais fait un balado avec toi, je t'aurais écouté beaucoup.
Exactement.
C'est d'écouter beaucoup. C'est important d'écouter.
Oui,
j'ai parlé beaucoup, mais c'est souvent...
C'est le but du podcast, c'est que tu parles.
Mais c'est d'apprendre à écouter. On a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on parle.
Oui, parce que dans mon ancienne vie, j'étais un représentant vendeur pendant plus de 10 ans, puis j'ai connu beaucoup de très bons vendeurs, d'autres moins bons, mais j'ai eu des mentors excellents, puis le meilleur mentor que j'ai eu, Serge, que je salue, il a été, le meilleur conseil qu'il a pu me donner, c'est écoute avant de parler. Un bon vendeur va écouter, puis c'est un peu spécial, parce que quand tu es jeune dans ta tête, un bon vendeur, c'est tu dis ton pitch, puis là, faut que tu go, cet avantage-là, ce produit-là, ci, ça. Tu parles, puis là, ben, est-ce que vous voulez l'acheter? Non. Il dit, laisse parler ton client. Écoute-le. Le client là, va tout te donner des informations. Pose-lui les bonnes questions.
Exactement.
Et zip. Après ça, il va tout te dire ce que tu as besoin de savoir, combien il veut payer, où est-ce qu'il a été magasiné, pourquoi il veut acheter ce produit-là. Tu auras toutes les informations que tu vas avoir et ça sera à toi par la suite de closer. Fait que c'est un peu différent parce que quand on magasine, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui savent écouter, qu'il y a trop de vendeurs qui parlent trop. Et puis, c'est
raison.
Important.
Ah oui, c'est tout à fait. C'était un grand vendeur. Il a bien réussi dans son métier.
Il a fait une longue carrière, c'est pas pour rien.
C'est ça.
Et puis, non, c'est ça. En terminant, Hugo, je vais te laisser après ces deux questions rapides. Au niveau, je pourrais dire, oui, au niveau d'un conseil que tu pourrais donner à un jeune qui nous écoute, parce que moi, tu m'as donné un bon conseil et tu peux donner le même, mais tu pourras en donner un autre également. Quand on s'était rencontrés, je t'avais demandé à la fin de ta conférence la première fois, c'est quoi tu me donnerais comme conseil si je veux me lancer en affaires ou simplement si je veux me lancer comme conférencier. Puis tu m'avais dit, écoute, première des choses, si tu as peur de te lancer dans le vide, faut pas t'aille peur parce que c'est en te lançant dans le vide un peu comme un parachute. Quand tu veux sauter en parachute, si tu restes dans l'avion, ben il n'y aura rien qui va se produire. Si tu te lances dans le vide, ben là, tu n'auras pas le choix de trouver les solutions pour t'adapter. Et ça a été un conseil que j'ai gardé en tête toujours. Puis je me suis dit, quand j'ai eu peur de laisser mon travail pour me lancer en affaires, je me suis dit, c'est sûr, c'est risqué. J'ai une maison à payer, j'ai des projets d'avenir, des enfants, tout ça. Puis tu te dis, c'est sûr, j'ai un très bon salaire stable. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tout ça tomber pour vivre de ma passion. Mais j'étais convaincu à 100% que ça valait le coup. Puis ça va faire un an que tout va bien là-dessus, de ce côté-là. Fait que j'ai pas eu peur, mais c'est en me lançant dans le vide. Je me suis pas posé la question mais trop longtemps. J'ai tout de suite démissionné. J'ai pensé à mon projet qui était bien calculé, que j'avais bien mis en place. Puis par la suite, les solutions, je les ai trouvées quand il y a eu des problèmes. Mais c'est vraiment ça, de se lancer dans le vide. Mais c'est un très bon conseil. Mais qu'est-ce que tu aurais d'autre comme conseil excellent à donner à un jeune qui nous écoute, qui veut se lancer dans sa passion?
Ben, de s'écouter. Moi, je pense que c'est de savoir ce que c'est. Quand je te parlais du flux tantôt, quand tu dis waouh, j'ai pas vu le temps passer, c'est là que je sens de réfléchir, c'est tes aptitudes, t'es à l'aise avec quoi, c'est peut-être que tu vas aller chercher un job steady, puis un moment donné, après ça, tu dire ben je vais développer un hobby qui peut devenir peut-être une passion.
C'est ça.
Ben, ça dépend du contexte, parce que si je parle à un jeune qui est en Afrique, si je parle à un jeune qui est en Occident, si je parle à un jeune qui est en Europe, il y a le contexte dans lequel es-tu. C'est qu'est-ce qui t'allume, quelles sont tes forces, tes faiblesses. Est-ce que tu es quelqu'un de timide? Est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime faire du sport? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la solitude? Est-ce que tu es quelqu'un qui... Bon, c'est tout ça. C'est d'apprendre à te connaître, prendre le temps de te connaître, prendre le temps de réfléchir et à un moment donné, où tu as envie de rendre service. C'est ça la question. C'est qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux rendre service? Et si c'est de devenir un acteur, c'est pas juste pour être connu. Si c'est juste pour être connu, tu vas être malheureux. C'est pas ça. C'est pourquoi tu veux faire ce métier-là? Pourquoi tu aimes les mots? Pourquoi t'aimes l'art? Pourquoi t'aimes les émotions? C'est ces questions-là. Et comment tu vas y arriver? Pourquoi, comment? C'est les deux grandes questions.
Tellement.
Mais c'est rendre service. Je pense que, surtout si tu parles au niveau professionnel pour gagner ta vie, et si tu as envie de rendre service, pas juste faire plaisir à tes parents. Là. À un moment donné, quand tu as passé 20 ans, c'est plus pour faire plaisir à tes parents. Tu es rendu un homme, une femme.
Vis ta vie.
Vis ta vie. Et ça se peut que tu sois entré parce qu'il y a des gens qui ont vécu un deuil, une maladie, un déménagement. Ils ont été changés de pays. C'est difficile de donner un conseil parce que chaque humain a sa spécificité. Je pense que le conseil général, c'est où tu as envie de rendre service.
Exactement, parce qu'il faut aller selon l'offre aussi, le besoin, la demande. Faut tout calculer ça aussi. C'est important de dire, oui, il y a des bonnes idées, il y en a d'autres qui sont moins bonnes aussi. Fait que tu sais, c'est d'y aller aussi selon tes passions, mais de bien calculer tes trucs aussi. Là.
Et mon père me disait, c'est aussi difficile de faire une bonne vie qu'une mauvaise, c'est à toi de choisir.
Exact.
Les deux demandent autant d'énergie. Fait que choisis de quel bord tu vas aller. Ça a été le conseil le plus utile que mon père était médecin. Il m'a dit ça, j'avais 16 ans, tu sais, au moment où tu sais plus, tu sais. Fait que là, j'ai fait...
Excellent, ça.
C'est vrai que c'est aussi difficile de faire une bonne vie qu'une mauvaise. Ben go, choisis ta voie.
Wow, c'est excellent. Mais merci, merci beaucoup pour ce bon conseil de ton père et de toi-même.
alors, c'est ça, c'est où tu as envie de rendre service, puis go, vas-y, ça ne sera pas facile. La vie est difficile. Il faut l'accepter. Il y a des bons, il y a des mauvais.
Puis c'est sûr.
Plus tu es jeune, ben c'est ça. C'est t'acquérir ton expérience. C'est d'être patient et surtout de te respecter là-dedans parce que des fois, on veut peut-être faire les coins ronds. Puis il y a des gens qui vont nous faire miroiter des trucs. C'est de te respecter là-dedans puis de respecter les autres. Puis normalement, on finit par ressembler et penser comme les gens que l'on fréquente.
Oui,
alors, le choix de tes amis, le choix de qui tu t'entoures, l'équipe avec qui tu veux travailler, je pense que c'est essentiel, ça aussi. Alors, respectez-vous, puis respectez les autres, puis go, j'ai confiance en vous.
Wow, excellent. Écoute, comme toujours, des très bons conseils, Hugo. Puis, en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Hugo Dubé pour les prochaines années à venir?
La santé, continuer d'être dans le renouveau, continuer de m'émerveiller, de me poser des questions, continuer d'observer, d'être curieux, de douter, continuer de chercher de quelle façon je peux m'améliorer, de quelle façon je peux rendre service, de quelle façon je peux entretenir des passions, parce que je suis un généraliste avec, tu sais, je me suis spécialisé dans le monde des émotions aussi, mais c'est de continuer de goûter la vie le plus longtemps possible. C'est ce que je me souhaite.
On te le souhaite tous, sincèrement. Écoute, c'est vraiment...
Merci aussi, d'ailleurs.
Ben oui, merci beaucoup. Puis écoute, c'est un énorme plaisir de t'avoir reçu au podcast déjà pour ce 13e épisode. Et puis, sincèrement, ça a été très inspirant. Puis j'espère que les gens vont avoir passé un bon moment en ta compagnie, en notre compagnie. Puis on ne souhaite que le meilleur pour l'avenir. Et puis, pour ceux et celles qui ont hâte de retrouver District 31, sachez que les tournages vont, espérons-le, débuter bientôt comme à annoncé. Ça devrait être au cours du mois de juin. On n'a pas une date précise encore, mais ça devrait être au cours du mois de juin que les tournages vont recommencer. Alors, pour la culture et pour tous les spectateurs au Québec, on souhaite sincèrement que tout puisse repartir très bientôt. Alors, un gros merci à tout le monde d'avoir été présent.
Oui, santé tout le monde, puis profitez de l'été, profitez de la vie. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, alors c'est le moment présent.
Exactement. Bien, sur ces mots de sage, nous allons conclure là-dessus. Et puis, sincèrement, merci beaucoup encore, Hugo, d'avoir été présent. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode avec d'autres invités différents et surprenants avec des parcours surtout inspirants, 100% Made in Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit lors d'un prochain épisode. Merci.
Salut.